RCF.
Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission dédiée à la santé, qualité de vie au travail dans le secteur de la finance. Je suis Amandine Borne, spécialiste en management des compétences et des ressources humaines. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Mathieu, directeur général de 1804 Associés et membre du comité de pilotage du projet 4121. Ensemble, nous allons explorer comment et pourquoi le secteur de la finance peut mettre en place une démarche santé qualité de vie au travail. Une conversation qui promet d'être riche, concrète et inspirante pour tous ceux qui souhaitent impulser une autre dynamique au sein des entreprises. Vous écoutez Polychrome pour s'épanouir au travail sur RCF Alsace. Bienvenue dans cette émission.
Polychrome pour s'épanouir au travail, présenté par Amandine Borne sur RCF Alsace.
Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, bonjour Jean-Baptiste Mathieu.
Bonjour Amandine Borne.
Merci d'être présent et d'être avec nous aujourd'hui pour parler de SQVT, la santé, qualité de vie au travail dans le monde de la finance. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Eh bien avec plaisir, donc Jean-Baptiste Mathieu, directeur général au cabinet 1804 Associés. 1804 Associés, c'est un cabinet de gestion de patrimoine, un family office, mais qui a la singularité d'être engagé aussi en matière de santé, qualité de vie au travail, et donc c'est une entreprise à mission.
Santé, qualité de vie au travail, et alors le bien-être au travail, c'est quoi pour vous ?
Bien-être au travail, ça devrait être une évidence. Hein ? Je crois que aujourd'hui, ce sont des choses qui comptent beaucoup. Peut-être que par le passé, on pensait d'abord rentabilité. Et je crois que les nouvelles générations aujourd'hui, et même tout le monde, pensent aussi à leur vie. Et donc, le bien-être au travail, c'est pouvoir ne pas souffrir du travail, s'épanouir dans son travail et faire que le travail n'est pas forcément tout dans la vie, mais ce qui permet d'avoir une meilleure vie.
D'accord. Et alors, dans le secteur de la finance, on va parler de cette fameuse santé qualité de vie au travail. Mais avant de rentrer aussi dans ce vif du sujet-là, c'est quoi le secteur de la finance ?
Le secteur de la finance, c'est le secteur qui rassemble les acteurs censés financer l'économie. Et donc, l'économie. Et donc, si on fait un résumé, c'est d'abord le marché. Plutôt que le secteur de la finance en tant que tel, nous, en tant que cabinet de gestion de patrimoine, on travaille plus, je dirais, sur le secteur du patrimoine. Le secteur du patrimoine, il va inclure à la fois la finance, mais aussi l'immobilier. Tout ce qui peut être un support de placement.
Donc, qui est en lien avec de l'argent, des sous-sous.
Oui, notamment, oui, plutôt.
D'accord. Et alors, quels sont justement les enjeux sociaux et environnementaux qu'on peut rencontrer actuellement dans ce secteur d'activité ?
Ben justement, depuis un certain nombre d'années, même un peu plus d'une vingtaine d'années, le monde du patrimoine et de la finance est traversé par ces sujets, notamment à travers les critères ESG, la question de la finance durable.
ESG.
Et ESG, c'est-à-dire à la fois des critères environnementaux, des critères sociaux et des critères de gouvernance.
Et qui fixe ces critères ?
Ce sont des labels.
D'accord. Hein,
et finalement, les acteurs de la finance sont encouragés, notamment en Europe, à aller vers ces critères-là. Et ce qui a été un peu à l'origine de notre cabinet, il a été de constater que le S de ESG était un petit peu abandonné pour des raisons peut-être idéologiques et aussi parfois aussi très techniques. C'est-à-dire que mesurer l'empreinte environnementale, l'empreinte carbone, c'est quelque chose d'assez facile. Mesurer l'empreinte sociale dans une entreprise, c'est déjà plus compliqué.
Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises de ce secteur d'activité-là sont invitées à changer leur mode de fonctionnement pour tenir compte de l'environnement de la planète, l'environnement humain, mais qu'il est plus simple finalement de mettre en place des actions sur l'environnement, parce que c'est plus mesurable, mais par contre sur la partie humaine, c'est un peu plus compliqué.
Ouais, tout à fait, exactement. Alors déjà, je pense que déjà sur le critère développement durable, environnement, ce sont quand même une minorité d'acteurs qui font cet effort. Ils existent, ils se développent, même si peut-être la tendance qu'on vit ces derniers mois est plus difficile, mais en tout cas ils existent, ils se développent. En matière sociale, c'est plus compliqué, tout à fait.
Et ces labels, à quoi ça sert pour les entreprises ?
Ces labels, ça sert déjà à conseiller l'investisseur, à pouvoir lui dire si l'investisseur a envie justement de donner un angle plus social, plus responsable à son environnement, de pouvoir le faire. Finalement, on considère, en tout cas nous, à 1804, que investir, c'est un acte politique et social. C'est vrai que ce sont des choses qui peuvent paraître un peu éloignées. La culture financière n'est pas forcément très développée en France, mais dès lors qu'on a un placement, qu'on a une assurance vie, elle est sur une allocation. Et donc sur une allocation, c'est-à-dire qu'il est placé à travers des fonds dans des sociétés. Ça paraît très loin du quotidien des gens, mais finalement, en finançant l'économie ainsi, on peut se poser la question de savoir si on cherche uniquement de la rentabilité ou si on veut aussi donner du sens à ces placements. Je crois que vous êtes bien placé à le savoir aussi ici à RCF.
Mais ça veut dire que du coup, on peut gagner de l'argent sans que ce soit au détriment d'autrui et même en faisant du bien à l'environnement et aux humains.
Je pense que c'est un projet assez enthousiasmant, de se dire qu'on peut à la fois gagner de l'argent et à la fois faire du bien aux gens. Alors le monde, il n'est pas aussi facile que prononcer cette phrase, hein, sinon ce serait déjà fait et on ne nous aurait pas attendu pour le faire. Je pense qu'en effet, on vit un peu à rebours dans une ambiance où on a longtemps cru que pour faire de l'argent, pour réussir dans la vie, il fallait souffrir. Et ça, c'est une idée à déconstruire, quoi. Je pense que plus on est bien dans sa vie, plus on a l'occasion de pouvoir réussir les choses qu'on entreprend.
Et le tout dans la joie, puisque la joie se partage, bien évidemment, surtout sur RCF. C'est notre slogan, effectivement. Et alors, ces labels, est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises dans votre secteur qui les ont, qui les mettent en place?
Alors, je pense qu'il faut distinguer deux choses, hein, les fonds d'investissement, qui eux, je veux dire, tendent vraiment à être éligibles à ces labels. Et puis nous, le domaine précis dans lequel on est, c'est-à-dire un cabinet de conseil. Et en matière de cabinet de conseil, on est peu nombreux. On est rassemblés notamment au sein d'une association, l'association de finances responsables. C'est vrai que, sans vouloir être caricatural, ce sont des cabinets plutôt jeunes qui ont pris ce mouvement.
Des professionnels transforment votre quotidien. Vous écoutez Polychrome pour s'épanouir au travail sur RCF Alsace.
On aborde aujourd'hui la mise en place d'une démarche santé-qualité de vie au travail dans le domaine de la finance. Et pour cela, je suis accompagnée de notre invité Jean-Baptiste Mathieu, qui est directeur général de 1804 Associés et qui est membre du comité de pilotage du projet 41-21. On a abordé en première partie le secteur de la finance et notamment les difficultés, en tout cas les enjeux qui sont rencontrés, les enjeux sociaux et environnementaux. Et on a parlé de labels, le fait de pouvoir faire aussi des investissements verts et des investissements sociaux. On a parlé aussi, c'est le thème d'ailleurs que j'aimerais bien qu'on aborde maintenant, de santé, qualité de vie au travail. Mais finalement, pourquoi il est urgent selon vous de mettre en place une démarche santé, qualité de vie au travail dans votre secteur d'activité ?
Je pense que c'est important d'entamer cette démarche dans tous les secteurs. Et donc si on l'entame dans tous les secteurs, il faut aussi l'entamer dans le domaine de la finance. Et comme on est quand même dans un domaine de financement de l'économie, on peut aussi se dire que si l'exemple vient de là finalement où on tient les cordons de la bourse, hein, sans jeu de mots, on encouragera encore plus d'acteurs de le faire. Et puis il y a le côté quand même aussi un peu signal, quoi. C'est ce qu'on disait précédemment, la finance, elle est quand même vue, et à juste titre en partie, je crois, comme un secteur aussi où il y a de la pression, où les gens sont pressés, où finalement ce qui compte avant tout, c'est la rentabilité. Si on arrive à renverser, ou en tout cas à faire évoluer le paradigme, et de montrer que prendre soin des gens, c'est tout aussi important, ou en tout cas ça doit se faire en même temps que avoir aussi des résultats, on a déjà changé pas mal de choses.
Ce que vous évoquiez en première partie, finalement, c'est ce que l'on fait au sein de notre entreprise, c'est vertueux. Et là, finalement, ce que vous êtes en train de dire, c'est ce qu'on fait à l'intérieur de notre entreprise, c'est-à-dire avec nos ressources humaines, c'est vertueux. C'est-à-dire que on sait que c'est un secteur quand même où il y a du stress, où il y a des risques psychosociaux, des burn-out aussi. Et finalement, on peut mettre en place, c'est ce que vous êtes en train d'évoquer, un cadre de travail qui va être sain, qui va permettre d'éviter justement ces problématiques-là.
Oui, alors il y a deux manières d'agir. Il y a la manière d'agir sur le secteur même de la finance, de faire évoluer ses méthodes de travail et d'être exemplaire au sein même de notre métier et de notre industrie. Et puis il y a ce qu'on pourrait dire les sous-jacents, hein, c'est-à-dire que lorsqu'on veut travailler, lorsqu'on est un gestionnaire de fonds, qu'on crée des fonds d'investissement, bah, aller plutôt prioriser des sociétés qui vont avoir cette vertu-là.
Comment vous faites pour prioriser des sociétés qui ont cette vertu-là ?
Bah justement, c'est là où il y a déjà des labels qui peuvent intervenir. Nous, on n'a pas nécessairement l'expertise de connaître exactement comment fonctionne une société. Et ça, c'est le travail des fonds d'investissement, de connaître les sociétés. Et donc, eux, tout le débat de tout à l'heure, ils doivent trouver justement les métriques, les indicateurs techniques qui viennent justement mesurer l'impact social, l'impact environnemental qu'une entreprise peut avoir.
Donc ça veut dire que dans le choix des partenaires avec lesquels vous travaillez, vous regardez s'ils ont des labels.
Bah, c'est la première étape, par exemple, oui.
D'accord. Et vous-même, au sein de vos équipes, qu'est-ce que vous mettez en place justement comme démarche santé qualité de vie au travail ?
Alors déjà, notre première démarche, c'est d'avoir adhéré au projet 41-21. C'est aussi ce qui nous permet en interne de s'évaluer, de s'améliorer. De découvrir aussi des choses auxquelles on n'était pas forcément formé. Hein. Quand on vient de notre univers et qu'on découvre l'univers de la santé au travail, c'est des univers assez différents. Donc il y a aussi une acculturation. Et puis il y a aussi ce qu'on peut mettre en place en termes d'engagement. En ce qui nous concerne, par exemple, c'est s'engager par rapport à la fondation cette année à reverser 10% de nos résultats.
Donc quand on parlait de la fondation, c'est la fondation du projet 41-21.
Exactement.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus de ce projet 41-21 ?
Alors le projet 41-21, c'est un projet qui est initié par Vincent Beau, qui a écrit un livre, La qualité de vie, la SQVT, En finir avec les conneries, et qui, suite à ce livre, a entamé un tour de France pour essayer de mobiliser les acteurs du secteur, et a trouvé un écho, et donc s'est posé la question, bah, une fois qu'on a fait un livre, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, il y a eu l'idée de créer cette fondation, et cette fondation, elle a deux objectifs. Le premier, c'est par l'exemple, en rassemblant des entreprises, comme la nôtre, mais peut-être comme demain, par exemple, RCF ou celle de nos auditeurs, faire évoluer le monde du travail en prouvant que par l'écoute, on peut transformer les choses. Et donc, l'écoute dans une entreprise, c'est à la fois bon pour le salarié, bon pour le dirigeant et bon pour la santé financière de l'entreprise.
D'ailleurs, pour ceux qui ont envie aussi d'en savoir un petit peu plus, on avait enregistré une émission avec Vincent. Donc vous pouvez l'écouter, c'était lors de la saison précédente, disponible encore en podcast.
Je coupe la parole, oui. Je m'en excuse, mais il y a le second volet de la fondation qui est aussi de faire évoluer le code du travail et qui est de faire de l'écoute le premier des principes généraux de la santé au travail. Et de ce point de vue-là, on a lancé une initiative, notamment grâce au député de la 3e circonscription du Bas-Rhin, Thierry Sauter.
Une initiative, c'est-à-dire ?
Une initiative législative.
D'accord. Pour pouvoir faire inscrire, du coup, ce principe-là dans la loi.
Exactement.
D'accord. Et ça, c'est donc quelque chose que vous appliquez au sein de votre entreprise ?
Exactement. C'est pour ça que, finalement, on est à la fois propagandiste de la fondation. On défend et on encourage d'autres entreprises à venir nous rejoindre. Mais on est aussi test, puisque en adhérant à la fondation, un référent est mis à notre disposition gratuitement. Et grâce à un référentiel, permet de challenger les méthodes de l'entreprise, les manières de travailler et mettre en place des outils pour améliorer nos dispositifs d'écoute et donc améliorer nos conditions de travail.
Et alors, si je mets ma casquette avocat du diable, mais pendant que vous faites ça, vous ne travaillez pas.
C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, mais finalement, c'est aussi, quand on fait de la communication, on pourrait dire qu'on n'est pas en train de signer des contrats. Et finalement, on a quand même besoin de faire de la communication pour faire parler de son entreprise. Donc quand on travaille pour améliorer la qualité, l'ambiance, le travail dans l'entreprise, on améliore le travail dans l'entreprise. Ce qui est important, je pense, dans ce projet aussi, là, d'un point de vue très très large, c'est que ça permet de reparler du travail dans notre pays.
Parler du travail, et quel est l'intérêt selon vous de parler du travail ?
Pour moi, l'intérêt de parler du travail, c'est que ça prend quand même une grande partie de la vie des gens. et que c'est quand même étonnant que quelque chose qui prend une part aussi importante de notre vie, qui est déterminant, qui détermine notre santé, qui détermine notre, je veux dire, santé à tous les sens du terme, hein, je veux dire physique, psychologique, financière, les projets de la famille, sont un sujet qui a un peu disparu du débat politique et du débat public. On parle plus aujourd'hui, c'est pas parce que c'est pas négatif, hein, mais aujourd'hui on parle plus de la retraite, donc du moment où on arrête de travailler, qui finalement est quand même un moment, même s'il tend à se prolonger, qui est quand même un moment court de notre vie comparé aux 40 années où on aura travaillé avant.
C'est vrai, à moins qu'on soit comme Jeanne Calment, mais on passe plus de temps à travailler qu'à être à la retraite. Donc ça veut dire que là, au sein de votre entreprise, vous mettez en place une démarche santé qualité de vie au travail, à travers entre autres le projet 41-21. Comment c'est pris par les collaborateurs ?
Alors, je répondrai de deux manières. Comment c'est pris par les collaborateurs et comment c'est pris par la profession ? Donc avec mon associé Julien Espejot, la première fois qu'on est allé notamment au Salon du patrimoine rencontrer nos confrères pour leur expliquer notre démarche, elle a été profondément incomprise. Puisqu'on nous a même dit, c'est une anecdote, hein, que comment on allait se faire rémunérer demain, est-ce que les gens nous paieraient avec leur carte vitale ? Donc il y a une espèce de culture comme ça un peu de mépriser ces sujets-là. Ce qui est plutôt bien parce que nous, ça nous pousse à continuer finalement dans ce sens-là et justement à insister. Et ça nous a pas démotivés, au contraire, ça nous a plutôt renforcés dans nos convictions. À travers nos collaborateurs, c'est plutôt quelque chose de positif. C'est quelque chose aussi qui peut interroger au départ. C'est vrai, lorsqu'on prend du temps pour faire des entretiens individuels, c'est pas du temps sur lequel on travaille dans le développement de notre activité. Mais comme on est une petite équipe, c'est vrai que c'est aussi la simplicité. C'est quand même plutôt des choses vertueuses, puisque ça renforce le dialogue, ça renforce l'écoute, ça permet de mettre de côté le temps d'une réunion, les sujets brûlants. Et dès qu'on prend du recul, en réalité, c'est même vertueux pour l'activité.
Dans quel sens ?
Ça nous permet finalement, au-delà même des simples questions de santé, de prendre du recul et de regarder et de réinterroger au sens large nos pratiques de travail, la manière dont on organise le travail dans la société, quels sont les outils qu'on met en place, quels sont les outils comment on peut améliorer ces outils, quels sont les risques auxquels on est exposé et peut-être on pense pas de premier abord. Et puis ça permet aussi de dire ce qu'on fait déjà de bien. Quelquefois, les choses qui peuvent paraître évidentes, mais qu'on ne remet pas en avant positivement, c'est un petit peu dommage. C'est facile de dire ce qui va pas. C'est important aussi de faire le point, de pouvoir dire ce qui va bien.
Polychrome, pour s'épanouir au travail, RCF Alsace.
On poursuit notre discussion avec Jean-Baptiste Mathieu, qui est directeur général de 1804 Associés, qui est membre du comité de pilotage du projet 41-21. Et on échange aujourd'hui sur le thème de la mise en place d'une démarche santé qualité de vie au travail au sein du secteur de la finance. Donc on a bien vu, on a des représentations, moi la première, hein, sur la finance. L'objectif, c'est de gagner de l'argent à tout prix, à n'importe quel prix. Jean-Baptiste, vous nous avez dit que finalement, on peut être vertueux dans ce secteur d'activité, vertueux par le choix des placements qu'on fait, des entreprises avec lesquelles on travaille, mais également vertueux en interne avec nos collaborateurs. Vous avez parlé du projet 41-21, qui est un projet pour mettre l'écoute au centre du travail. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire déjà un peu plus sur l'écoute, c'est quoi l'écoute et finalement comment elle se transforme cette écoute ? Parce que c'est bien d'écouter, mais si on fait que écouter, à quoi ça sert ?
L'écoute, c'est un outil. C'est sûr qu'il faut écouter, mais il faut entendre. Et entendre, ça veut dire évaluer, recenser déjà la parole qui est récoltée au sein de l'entreprise, l'analyser, peut-être aussi expliquer que tout ce qui est entendu ne va pas pouvoir changer du jour au lendemain ou même parfois à plus long terme, mais déjà dire dans ce qui a été évalué sur quoi on va pouvoir se focaliser et ce qu'on va changer. Et donc il y a le temps de l'écoute, il y a le temps de l'évaluation et une fois qu'on avait évalué, défini des priorités, le temps de l'action. Et donc là, changer des méthodes.
D'accord, donc ça c'est des choses que vous mettez en place au sein de votre entreprise par exemple.
c'est des choses qu'on tend à mettre en place. On est au début de la démarche. Mm-hmm. Hein, la fondation, elle a un peu plus d'un an, donc on peut pas avoir la prétention d'avoir déjà tout mis en place. Mais c'est les étapes du référentiel qu'on est en train de mettre en place. Oui.
Alors justement, pour les entreprises qui ont envie de mettre en place une démarche santé qualité du lieu de travail, ce serait quoi la première étape ?
Rejoindre la fondation.
D'accord.
Non, mais oui. Adhérer au projet 41-21, moi j'aurais tendance à défendre ça parce que ça va finalement donner des outils gratuits en plus, c'est quand même assez rare aujourd'hui pour le signaler, pour pouvoir s'auto-évaluer et pour pouvoir avoir un cahier des charges qui va permettre d'agir et de transformer les méthodes de l'entreprise. Et donc même finalement aux entreprises qui pensent déjà avoir cet avantage-là ou d'avoir déjà mis un certain nombre de dispositifs ou d'aides vertueuses dans ce domaine-là, se faire challenger par le référentiel de la fondation, c'est un moyen de voir dans quelle mesure on a ou pas suffisamment atteint ses objectifs en matière de santé et qualité de vie au travail.
Donc finalement, la première étape, ce serait une prise de conscience de la direction, de se dire, tiens, je vais me faire accompagner gratuitement et je vais passer un petit peu au scanner les actions que j'ai mises en place à travers un référentiel qui est fourni par la fondation.
Ouais, tout à fait, par exemple. Et puis ça peut aussi être à un moment donné des syndicats qui aussi interpellent leur direction sur ce sujet-là en disant qu'il y a la fondation qui existe et que comme ils pensent être vertueux, qu'ils viennent se faire se challenger. Je pense que c'est aussi justement, et c'est ça qui est intéressant quand je parlais tout à l'heure de parler du travail, c'est aussi un domaine où on peut mettre en discussion à la fois pour ce qui est des entreprises un peu plus grandes et syndicats et direction.
Donc ça veut dire que dans le projet 41-21, pour les entreprises qui ont un CSE, un comité social économique, du coup il va être intégré au projet.
Tout à fait.
Donc ça va permettre du dialogue social en plus sur le travail.
Ouais, alors ça c'est vrai que c'était une discussion importante qu'on a eue lors des universités d'été du projet 41-21 qui se sont déroulées au mois de juin à Marseille. C'est est-ce que finalement le projet 41-21, il fait pas ce que devrait faire le dialogue social ? Une question qu'on peut se poser quoi. Alors peut-être oui en partie, mais si justement à un moment donné des acteurs économiques de la société civile ont décidé à travers cette fondation de se lancer dans cette démarche-là, c'est peut-être aussi que le dialogue social de notre pays il a été un peu martyrisé ces dernières années.
Pas toujours évident, en effet. Et donc là, ça permet d'avoir aussi peut-être dans ce que vous évoquez un outil tiers qui va faciliter, qui permet d'être aussi sur des choses objectives et factuelles.
C'est ça, tout à fait. Je pense que le point fort du référentiel, c'est de donner finalement des métriques, des outils pour venir mesurer et objectiver les choses. Et à partir du moment où on accepte finalement de se faire challenger et donc ainsi de mesurer ce qu'on peut mettre en place en matière de santé, qualité de vie au travail, parce que ça, c'était un des sujets notamment du livre de Vincent Beau. Alors, ça va être un peu caricatural ce que je vais dire et je m'en excuse, mais à un moment donné, la qualité de vie au travail, on a quand même eu l'impression que c'était installer des baby-foot et faire des massages. Ce qui est très bien et il faut le faire si ça permet de mettre une bonne ambiance dans l'entreprise. Mais parler de qualité de vie au travail, c'est de parler de la santé des gens qui travaillent dans l'entreprise et aussi la santé du dirigeant. Le dirigeant, il est aussi concerné par ça. Et quand on parle de santé, c'est aussi de parler et à la fois de la santé physique et de la santé mentale. Et donc, pour le coup, toutes les entreprises et toutes les formes d'organisation de la même entreprise, toutes les formes d'organisation du travail, elles sont concernées par ces sujets.
Donc, ce que vous dites, c'est que la qualité de vie au travail, avant d'être plutôt un gadget, la mise en place de gadgets, d'actions loisirs, c'est d'abord parler du travail.
C'est parler du travail, c'est vrai, et c'est parler de la santé, c'est aussi parler de la manière dont se passe ce travail, la matière dont elle aimerait vivre le travail, et faire aussi que le travail, ça n'est pas une souffrance, en tout cas ça ne doit pas être une souffrance, ça doit être un moyen aussi de d'avancer.
Et alors en conclusion, parmi tout ce qu'on s'est dit, quel est le point clé à retenir, Jean-Baptiste ?
Le point clé à retenir, Amandine, je dirais que c'est rejoignez la fondation. Si vous avez envie d'améliorer le travail, soit dans votre société, avec vos collaborateurs, rejoignez-nous. Il y a encore de la place dans la fondation. Et c'est déjà une aventure humaine. Je parlais tout à l'heure de l'université d'été qu'on a faite. Ce sont aussi des belles rencontres. Et en tout cas, on n'a pas forcément la prétention au sein d'une seule fondation de changer du travail. Mais en tout cas, à notre petit niveau, on a l'impression de contribuer à peut-être rendre la vie des travailleurs et de tous ceux qui ont envie de travailler, dirigeants, salariés, un peu plus douce.
C'était Polychrome pour S'épanouir au travail. Merci à vous toutes et tous d'avoir écouté cette émission consacrée à la mise en place d'une démarche santé-qualité de vie au travail dans le domaine de la finance. Un grand merci à Jean-Baptiste Mathieu pour la richesse de ses partages, ses éclairages concrets et son engagement au service de l'épanouissement professionnel. Nous avons exploré ensemble les enjeux, les leviers ainsi que des actions simples et concrètes qui peuvent être mises en place. Et j'aimerais également remercier Ève pour l'assistance technique et la qualité de son accompagnement tout au long de cette émission. Merci beaucoup. Et si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à en discuter avec vos équipes, à poursuivre la réflexion dans vos pratiques managériales. Et bien évidemment, vous retrouverez en podcast sur notre site internet rcf.fr/Alsace. Je vous donne rendez-vous le mois prochain et d'ici là, prenez soin de vous, de votre santé et qualité de vie au travail.